Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes et l'argent, le success story de quatre leaders financières, des entrevues réalisées par Sophie Stival et Emmanuel Grill, parues dans Bel Âge. Quatre femmes ayant fait leur marque dans le monde des affaires nous montrent comment la confiance en soi permet de développer notre empowerment en matière d'argent. Monique Leroux, Dominique Anglade, Léa Saadé et Nathalie Hott, par leur leadership et leur dynamisme, tracent la voie et sont des modèles pour toutes les générations. Monique Leroux, 70 ans, ex-présidente du mouvement Desjardins et mentor. Sur les réseaux sociaux, Monique Leroux se présente comme une femme d'affaires et administratrice de société, passionnée par le leadership, la stratégie et le développement des personnes. On la décrit aussi comme une grande philanthrope, notamment auprès des jeunes, des femmes d'affaires et dans les domaines des arts et de l'éducation. Les plus hautes distinctions lui ont été décernées. Compagnon de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre national du Québec, chevalier de la Légion d'honneur en France, récipiendaire du prix Woodrow Wilson aux États-Unis. Sans compter tous les titres et doctorats honoris causa et prix de diverses universités canadiennes pour sa contribution dans le secteur des affaires, mais aussi communautaire. À 70 ans, l'ancienne présidente du mouvement Desjardins de 2008 à 2016 ne chôme pas. Celle qui préside et siège à de nombreux conseils d'administration au Canada et en Europe avoue aimer particulièrement son rôle de mentor auprès de la relève. Comme experte conseil, Monique Leroux apprécie également lorsqu'un PDG ou un membre d'un conseil l'appelle pour partager un enjeu, un problème afin de brasser des idées. Quel est l'accomplissement professionnel dont vous êtes le plus fier? Ma plus grande réussite demeure mon élection en 2008 à la présidence du Mouvement Desjardins dans le contexte d'une crise financière complexe. 8 candidats sont en lice et il y a un collège électoral de plus de 250 personnes à convaincre. Cela a été professionnellement et personnellement des moments exceptionnels. Quels obstacles avez-vous surmontés? J'ai peu de réactions négatives lorsque survient un problème. Au contraire, je le vois comme une occasion de me remettre en question et d'aller plus loin. Je veux trouver une solution et surtout résoudre le problème en équipe. Quelle valeur avez-vous apporté au monde des affaires? J'ai la capacité de faire preuve d'humilité en éclaircissant les doutes qui m'assaillent, en demandant des conseils à mon entourage et en étant à l'écoute. La qualité principale qui fait de vous une leader inspirante? La confiance est au cœur des relations humaines et de la stabilité du système financier. Le sentiment de confiance qu'on ressent à l'endroit d'une organisation ou de ses collègues de travail demeure essentiel. Cela sous-entend de faire preuve de rigueur et de discipline, mais aussi de respecter les faits et les personnes qui nous entourent. Un vrai leader va inspirer les gens à accomplir de grandes choses en les amenant à partager une vision dont ils sont convaincus que ce sera aussi la leur. On apporte ainsi énormément d'énergie positive dans un monde qui en a grandement besoin. Votre règle d'or en affaires? Ma mère me disait, on récolte ce que l'on sème. Dans le cas de mon père, c'est plutôt la devise « fais ce que dois ». Advienne que pourra, qui résonne. Dans un environnement où il y a un choc de valeurs et des façons de faire qui ne sont pas alignées sur l'intégrité, le respect des personnes et la rigueur des faits, je préfère m'en aller ailleurs et faire autre chose. Votre principale recommandation aux femmes afin de mieux maîtriser leurs finances? Je ne regarde pas seulement le profit du lendemain, mais je me demande, après une analyse rigoureuse de la situation, comment devenir plus résiliente et penser à plus long terme. Je veux connaître les risques auxquels je m'expose afin de les anticiper et possiblement d'y faire face afin de prendre des décisions éclairées. Dominique Anglade, 51 ans, professeur associé à HEC Montréal. Dominique Anglade est une véritable boule d'énergie. Avant sa carrière politique, l'ancienne chef du Parti libéral du Québec, vice-première ministre et ministre de l'économie, de la science et de l'innovation, occupe aussi plusieurs postes de direction chez Procter & Gamble, Nortel et McKinsey, avant de devenir PDG de Montréal International. Elle est de plus titulaire d'un baccalauréat en ingénierie de Polytechnique Montréal et d'un MBA de HEC Montréal. Peu de temps avant le terrible séisme de 2010 à Haïti, où elle perd ses parents et plusieurs membres de sa famille, elle cofonde CANPE afin d'accompagner des communautés rurales défavorisées en Haïti. À 51 ans, Dominique Anglade siège à plus d'une dizaine de conseils d'administration en plus d'être professeur associé et co-leader à la direction de la transition durable de HEC Montréal. Son leadership économique, social et politique a été récompensé maintes fois par l'obtention de plus d'une vingtaine de distinctions, souligne le site de HEC Montréal. Quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? Malgré les nombreuses responsabilités que j'ai occupées, la réussite dont je suis le plus fier, c'est d'avoir permis à mon entourage de réussir en même temps que moi. D'avoir un conjoint qui a pu s'épanouir dans ses fonctions et des enfants qui peuvent le faire dans leur vie, alors que chacun évolue dans sa sphère d'activité. Quels obstacles avez-vous surmontés? Les obstacles ne sont que des occasions de mieux rebondir. À 24 ans, j'ai dirigé un département d'une centaine de personnes chez Procter & Gamble en Ontario. J'étais 4 fois une minorité. Note de la rédaction, par son âge, son sexe, son origine ethnique et sa langue. Et j'avais des croûtes à manger. Tu développes alors de nouvelles manières de les convaincre que tu es la bonne personne et de travailler avec eux afin d'obtenir des résultats. Quelle valeur avez-vous apporté au monde des affaires? La résilience. Dans mes nombreux projets, je n'accepte pas de me faire dire non. Les débuts de la Fondation CANPE ont été difficiles. On a approché plusieurs personnes pour joindre notre conseil d'administration, solliciter des dons. On a essuyé plusieurs refus, mais on y croyait. Dans ces moments, il faut continuer et trouver des solutions. Qu'est-ce qui fait de vous une leader inspirante? Je crois qu'il faut aller au bout de soi-même, dans le respect des autres. Quand tu as la capacité de changer les choses, tu as également la responsabilité d'agir. Ma soif d'apprendre m'a aussi amené à œuvrer dans les secteurs privés et parapublics, à faire de la consultation, de la politique à des échelons élevés, sans oublier le monde académique. On me dit que cette capacité d'aller dans différents milieux est inspirante. Votre règle d'or en affaires? Je veux m'associer avec les bonnes personnes. J'irai au bout du monde avec des gens respectueux, ouverts, qui ont une éthique de travail et veulent contribuer et avoir un véritable impact. Votre principale recommandation aux femmes afin de mieux maîtriser leurs finances? Les femmes ont parfois de la difficulté à reconnaître ce qui leur est dû. Même si on a pris des congés de maternité, on a droit d'être compensé et on a droit à son régime de pension. On oublie qu'il y a un coût financier à la maternité, à la ménopause. Vous écoutez Les femmes et l'argent, le success story de quatre leaders financières, des entrevues réalisées par Sophie Stival et Emmanuel Grill, parues dans Bel Âge. Léa Saadé, 41 ans, vice-présidente régionale, IG Gestion de patrimoine. La feuille de route de Léa Saadé est impressionnante. Diplômée d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialité finance et entrepreneuriat de l'Université McGill et d'un MBA exécutif de l'UQAM, elle s'est taillé une place au sein d'institutions financières canadiennes d'envergure avant d'être recrutée par la FDP. Détentrice de plusieurs titres professionnels, c'est toutefois celui de planificatrice financière qui, selon elle, lui permet de conjuguer le mieux ses deux passions, les gens et les chiffres. Malgré son agenda chargé, Léa Saadé s'implique régulièrement auprès d'organismes défendant des causes qui lui tiennent à cœur, en plus de siéger au conseil d'administration de l'Institut de planification financière, dont elle est aussi la vice-présidente trésorière. Outre sa volonté de réussir, son cheminement témoigne également de ce qui a toujours été sa devise, qu'elle soit en couple ou pas, les femmes devraient travailler à bâtir leur autonomie financière, une valeur qu'elle s'efforce d'ailleurs de transmettre à ses deux filles. Quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? Chaque étape de mon parcours scolaire et professionnel a demandé beaucoup d'efforts. C'est pourquoi je suis fier d'avoir su faire preuve de résilience, de m'être dépassé et d'avoir atteint mes objectifs. Même s'il y a des obstacles, les femmes ont leur place et peuvent exceller en finance. En 2023, j'ai également reçu le prix Coup de cœur et j'ai été nominée pour le prix Leadership de l'Association des femmes en finance du Québec. Ce sont deux reconnaissances qui me touchent tout particulièrement. Quels obstacles avez-vous surmontés? Durant mon parcours professionnel, on m'a déjà dit que j'étais trop jeune pour occuper des postes de gestion. J'ai dû m'accrocher et faire mes preuves pour parvenir là où je suis rendue aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de femmes ont tendance à baisser les bras dès le premier non, alors qu'au contraire, il ne faut jamais lâcher et faire preuve de persévérance. À mon avis, pour avancer, il faut aussi éviter de se comparer et ne pas laisser la peur du jugement des autres nous paralyser. Quelle valeur féminine avez-vous apportée au monde des affaires? L'industrie de la finance est un secteur majoritairement masculin, mais on peut assurément travailler en complémentarité. La touche féminine, à mon avis, c'est l'empathie, l'inclusion, le fait de porter attention à chaque membre de l'équipe et de leur faire sentir que leur avis est important. La qualité principale qui fait de vous une leader inspirante? J'ai la capacité de nouer des liens sincères, authentiques et durables qui constituent, à mes yeux, la base de toute bonne relation, tant personnelle que professionnelle. Votre règle d'or en affaires? Budgéter, planifier en amont, être structuré et organisé. Cela aide assurément à atteindre ses objectifs. Vos recommandations aux femmes afin de mieux maîtriser leurs finances? De faire un budget. C'est la seule façon de savoir avec précision ce qu'on gagne, ce que l'on dépense et où va notre argent. Il est essentiel aussi de se fixer des objectifs clairs afin de bâtir notre indépendance financière au fil des ans, et ce, qu'on ait un conjoint ou pas. Attention, Les femmes ont une espérance de vie plus longue. Il faut donc accumuler davantage d'argent pour vivre une retraite confortable. Dernier conseil, trouvez un planificateur financier de confiance qui nous aidera à atteindre nos buts financiers. Nathalie Hott, 58 ans, chef de pratique, gestion des risques en savoir et fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité. Avec plus de 30 ans d'expérience en fiscalité et planification financière personnelle, Nathalie Hott est une véritable référence dans son domaine. Preuve en est qu'après avoir œuvré pour une grande institution financière et pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton, RCGT, elle occupe aujourd'hui le poste de chef de pratique auprès du Centre québécois de formation en fiscalité, organisme dont RCGT est partenaire. Généreuse de son temps et de son expertise, elle s'implique activement auprès de plusieurs organismes comme l'Association de planification fiscale et financière et l'Institut de planification financière, IPF. En plus d'avoir donné de nombreux séminaires, conférences et cours tout au long de sa carrière, elle œuvre aussi comme mentor en fiscalité pour l'IPF. Soucieuse de fournir des solutions pratiques aux enjeux touchant la fiscalité et la planification financière, Nathalie Hott aime aussi la recherche et agit aujourd'hui en soutien aux fiscalistes, lesquels vont à leur tour aider leurs clients. C'est de cette façon qu'elle a le sentiment de redonner au plus grand nombre et de réellement faire une différence. Quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? Je suis particulièrement fier d'avoir réussi à toujours faire preuve de transparence et d'authenticité. À mes yeux, la chose la plus importante est de donner leur juste, et ce, même si ce n'est pas nécessairement facile dans un monde d'argent et de vente. Par exemple, si un produit financier n'est pas avantageux, je ne me suis jamais empêché de le dire. C'est ainsi que j'ai pu garder la confiance de mes clients. Quels obstacles avez-vous surmontés? J'ai parfois eu à prendre des décisions professionnelles difficiles. J'ai dû me questionner sur mes valeurs et tenter d'y rester fidèle, même si cela impliquait des sacrifices. Quelle valeur féminine avez-vous apportée au monde des affaires? Je ne pense pas que cela soit un trait spécifiquement féminin, mais à mes yeux, l'humain et le respect sont au centre de tout. Il faut être capable d'écouter et de comprendre les autres, d'accepter que leurs besoins ne soient pas nécessairement ce qu'on estime être le meilleur pour eux. Par exemple, si un client souhaite avoir une structure fiscale simplifiée, même si ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus avantageux pour lui, on doit se mettre à sa place et respecter sa demande. Quelle est la principale qualité qui fait de vous une leader inspirante? Je crois résolument que tous ensemble, on est bien meilleur que lorsqu'on est seul. C'est pourquoi j'aime apprendre des autres et poser des questions. Cela constitue une source d'inspiration pour les techniques et les méthodes de travail. Je suis également une personne honnête, fidèle, loyale et qui tient ses promesses. Votre règle d'or en affaires? Vous aurez sans doute compris que c'est de rester fidèle à mes valeurs. À mon avis, on devrait toujours se poser la question et déterminer ce qui est important pour soi. En vieillissant, c'est beaucoup plus facile de le savoir, parce qu'on se connaît beaucoup mieux. Vos recommandations aux femmes afin de mieux maîtriser leurs finances? Personne n'aime faire un budget, mais c'est une étape cruciale. Établir un plan financier, ainsi qu'un plan de retraite et un plan successoral, sont également des incontournables. On peut s'informer en consultant les ressources offertes par des sites fiables afin d'améliorer notre littératie financière. Et comme on ne peut pas tout faire soi-même, on peut aller chercher de l'aide et s'entourer de professionnels de confiance, planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière, comptables, notaires, etc. C'était « Les femmes et l'argent », le success story de quatre leaders financières, des entrevues réalisées par Sophie Stival et Emmanuel Grill, parues dans Bel Âge.
Y a-t-il des villes 15 minutes au Québec? Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 31 mars 2025 dans Le Devoir. Montréal, Québec, Trois-Rivières ou Sherbrooke sont-elles au moins en partie des villes 15 minutes? Selon la théorie de l'urbaniste franco-colombien Carlos Moreno, l'espace urbain devrait être organisé pour que les services essentiels en santé ou en éducation et les points d'intérêt pour la culture ou les loisirs soient à distance d'un quart d'heure à pied ou à vélo. Cette règle simple d'aménagement améliore la qualité de vie en réduisant l'usage des coûteux transports motorisés indiscutablement mauvais pour la santé et l'environnement. Sur l'île de Montréal, selon la première carte mondiale des villes du laboratoire Sony des sciences informatiques, Sony CSL, de Rome, la cité du quart d'heure à pied se réalise, en gros, entre le fleuve et la rivière, dans l'espace délimité par les autoroutes 15 et 25. Autrement dit, au centre, où les services comme les écoles, les épiceries ou les cliniques médicales ne sont souvent qu'à quelques minutes de marche. À l'intersection de l'avenue de Châteaubriant et de la rue Saint-Zotique, par exemple, il faut moins de 5 minutes de marche pour accéder à la plupart des services de base. Les extrémités est et ouest de l'île rendent les déplacements actifs quasiment impossibles à pied, mais envisageables à vélo. Avec en moyenne 13 minutes pour rejoindre des services à pied en moyenne et 5 minutes à vélo, Montréal se classe comme ville du quart d'heure et s'avère bien mieux développée de ce point de vue que presque toutes les autres villes du reste de l'Amérique du Nord. Il y a aussi des nuances à faire entre l'accès à la nourriture ou aux services médicaux, assez favorables partout sur l'île, et l'accès aux centres culturels, plus difficiles en périphérie. Sherbrooke offre un exemple bien plus éloigné du modèle idéal. Une petite cellule du centre autour du lac des Nations permet d'atteindre les services à pied. Elle s'étend à vélo. L'automobile s'impose partout en périphérie, à Deauville, à Rock Forest, à Bromptonville ou à Fleurimont. Le constat se refait à Québec et à Trois-Rivières, deux villes historiques multicentenaires exposant les transformations de l'urbanisme dans le Nouveau Monde. Le noyau central densifié autour de la mobilité douce, selon le modèle européen, a été complètement bouleversé par l'expansion des banlieues à l'américaine organisées autour de la motorisation individuelle. Des données massives. Ces villes québécoises font partie du lot de quelques 10 000 cités analysées par le laboratoire italien. Montréal occupe le 342e rang, ce qui est quand même appréciable, les places se gagnant ou se perdant sur des secondes. Le top 50 des villes comptant plus d'un demi-million d'habitants chacune est largement dominé par les grandes villes européennes. Milan arrive tout en haut de la liste avec 97,5% de sa population capable d'atteindre les services de base en éducation, en santé ou en alimentation en 6,4 minutes à pied. Copenhague, Turin, Dublin et Lyon suivent avec des résultats presque aussi impressionnants. Paris s'affirme comme ville 8 minutes à pied en moyenne pour atteindre une clinique, une école ou une épicerie. Tokyo, immense mégalopole de 14 millions d'habitants, se classe au 50e rang. 78% des services de base se trouvent à 12,3 minutes de marche. L'originalité et la force de notre étude tiennent à son aspect massif, gigantesque, puisqu'elle couvre la planète au complet, explique au Devoir Igor Piaget Montero Melo. Il co-signe avec Matteo Bruno, Bruno Campanelli et Vittorio Loreto l'étude « A Universal Framework for Inclusive 15-Minute Cities », parue dans la revue Nature Cities. Les études sur le transport se contentent souvent d'examiner les villes européennes et parfois quelques villes en Amérique du Nord. Nous avons choisi de traiter les données concernant presque toutes les grandes villes sur tous les continents. Physique, statistique. Monsieur Montero Melo est brésilien, spécialiste de la physique statistique. Cette discipline explique le comportement de systèmes macroscopiques à partir de leurs composantes microscopiques, des atomes par exemple. Les outils développés là servent maintenant à analyser des mégadonnées. Les physiciens ont compris qu'ils pouvaient utiliser leurs techniques pour étudier les sociétés qui fonctionnent comme des systèmes macroscopiques qu'on peut comprendre en s'intéressant à leurs unités de base. Les outils de la physique statistique servent particulièrement bien les études sur les transports, résume le physicien. Le Big Data planétaire a été fourni par OpenStreetMap, autre formidable entreprise collaborative inspirée de Wikipédia, cette fois pour cartographier le monde en ligne. Les internautes, contributeurs, ne cessent d'améliorer les données en positionnant les services sur les cartes en libre accès. Certaines zones du monde, en Afrique par exemple, restent moins bien couvertes, mais en gros, les données s'avèrent fiables. Le physicien statistique vient d'être embauché comme professeur au département des sciences informatiques à l'Université fédérale de Sierra de Fortaleza, sa ville natale, où il a été joint. La capitale de l'État du Sierra, dans le Nord-Est, compte 3 millions d'habitants environ et se classe finalement très bien pour l'accessibilité à vélo. Le professeur Montero Melo lui-même se déplace en voiture pour des raisons de sécurité. Fortaleza a un énorme potentiel de ville 15 minutes en raison de sa très forte densité, très compacte. Malheureusement, c'est aussi une ville très violente, déplore-t-il. Une urbanité malmenée. La place outrageusement dominante de l'automobile dans l'aménagement urbain nord-américain explique le mauvais score de cette partie du monde. La faible densité urbaine explique cette urbanité malmenée. Vancouver, la ville du nord du continent la mieux positionnée, se classe au 53e rang. L'étude italienne permet de comparer les villes du monde entre elles, mais aussi de comparer les zones intra-urbaines entre elles. Les inégalités interurbaines s'expose ainsi tout autant que ce qu'on pourrait appeler les injustices spatiales à l'intérieur d'une même agglomération. On peut vivre la ville 15 minutes dans certains quartiers centraux d'Atlanta, qui reste une ville globalement très peu favorable à la circulation à pied pour atteindre les points d'intérêt, résume le chercheur brésilien. L'intérêt de l'étude repose aussi sur les solutions proposées. Grâce à un algorithme original, l'étude montre comment il serait possible de redéployer certains points d'intérêt dans l'espace en fonction de la distribution géographique de la population pour améliorer leur accessibilité par les moyens de transport actifs. L'exercice théorique montre par exemple qu'en distribuant mieux ces points de service, Melbourne, en Australie, pourrait passer d'une ville 15 minutes à 50% à une autre mieux aménagée à 90% selon le modèle du quart d'heure. Cet outil prouve du même coup l'importance de la planification urbaine pour la répartition des services de base. Beaucoup trop tard. Pour certaines villes, le pari de la mobilité douce et active semble perdu. Toujours à Atlanta, ville aux banlieues tentaculaires, il faudrait multiplier par 12 le nombre de points d'intérêt pour se conformer aux normes du modèle des cités les mieux aménagées pour la qualité de vie. Notre article montre des inégalités partielles au sein des villes, dit le professeur Igor Piaget Montero Melo. L'accès aux points d'intérêt n'est pas réparti équitablement dans l'espace des villes. Une personne vivant en périphérie de Rome, ville 15 minutes, peut prendre une heure pour se rendre à son travail en voiture comme un nord-américain typique. En somme, tout dépend de l'endroit où vous vivez dans votre ville. L'équipe du laboratoire Sony CSL de Rome continue les recherches en s'intéressant à la transformation de l'accessibilité par les déplacements d'une part des points d'intérêt et aussi à l'incidence des espaces verts sur les déplacements. Les déplacements vers le travail feront aussi l'objet d'une prochaine étude, plus compliquée à réaliser parce que les données ne sont pas en accès libre à l'échelle internationale ni uniformisées. On veut encore une fois le faire pour des milliers de villes dans le monde, et chaque pays a sa manière de documenter le problème. Mais nous allons le faire. C'était « Y a-t-il des villes 15 minutes au Québec ?» un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 31 mars 2025 dans Le Devoir.
Denise Boucher et sa grande soif de mots nous ont quittés. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir. La poète Denise Boucher a marqué l'imaginaire et les lettres québécois. D'abord par son explosion fulgurante au théâtre. Les Fées ont soif ont explosé en 1978 au théâtre du Nouveau Monde, TNM, débordant de la scène au trottoir, en manifestation et jusqu'en Cour suprême, en poursuite. Madame Boucher a aussi laissé sa trace par ses paroles de chanson, particulièrement pour Jerry Boulet. « Un beau grand bateau que plusieurs peuvent fredonner » et « Angela », c'était ses mots. Elle a reçu l'aide à mourir en début d'après-midi le 18 mars 2025. Elle avait 89 ans. Depuis « Retaille », paru chez Hexagone, publié avec Madeleine Gagnon en 1977, Denise Boucher, qui se voyait comme une poète de l'errance, a signé 7 recueils, et des lettres, des mémoires et 3 pièces de théâtre, jusqu'à « Boîte d'images » chez Hexagone en 2016, où elle écrivait « La mort nous recyclera dans les obliques d'un soleil ». Mais les Fées ont soif et ses paroles de chansons sont des feux d'artifice, des évidences spectaculaires qui ont rejoint un grand public, souffle avec émotion Marie-André Bergeron, professeur de littérature québécoise et de littérature des femmes à l'Université de Calgary. Denise Boucher aura passé sa vie à s'engager, même de loin ces dernières années, à discuter et travailler avec plein d'artistes, rappelle Madame Bergeron. En chanson, elle a écrit pour Pauline Julien, « Où peut-on vous toucher ?» Grand prix du disque de l'Académie Charles Cros, Louise Forestier, Chloé Sainte-Marie, « Bonjour tendresse ». En théâtre, ce sont l'actrice Sophie Clément et Michel Magny qui invitent Denise Boucher à leur écrire une pièce, un poème à 3 voix pour la mère, la vierge, la putain. Louisette Dussault se joint à elle. Deuxième texte théâtral de Boucher après Cyprine, la pièce atterrit quasi au milieu de la décennie des femmes, rappelle Marie-André Bergeron. Jean-Louis Roux, directeur du TNM, a programmé déjà en 1976 le collectif La Nef des sorcières, dirigé par Luce Guilbeault, et rajoutera en 1981 La saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, indique le conseiller dramaturgique Paul Lefebvre. L'effet est jugé avant même d'être joué blasphématoire. Le Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal refuse de lui accorder une subvention d'environ 15 000 $. Le milieu de la culture et les directeurs de théâtre crient à la censure. Des manifestations ont lieu entre partisans de la pièce et opposants. Des organismes religieux poursuivent le TNM et veulent empêcher les représentations. Les spectateurs avaient autant le trac que nous à la première, raconte Sophie Clément, car ils avaient défendu la pièce sans la connaître. C'était extraordinaire d'être ainsi soutenu. Ne serait-ce que pour ça, Denise Boucher est un moment féministe important au Québec, poursuit Marie-Andrée Bergeron, qui croit qu'on ne doit pas oublier qu'elle a ensuite tenu tête à l'avocat conservateur Émile Collin quand il a voulu contrer la publication du texte. La défense de sa parole, de la parole des femmes et la question « qui a le droit de dire quoi à quel moment » était au cœur des faits. Cette bataille a débordé dans la vie. « Je crois que je jouis », a dit en conférence de presse en 1978 Denise Boucher. « C'est une chance extraordinaire de connaître ainsi la censure officielle. » Ça permet de porter le débat sur la place publique. J'en connais tant, des hommes et tant de femmes dont la censure a été le silence sur leurs œuvres. Les Fées ont soif a été beaucoup joué en France et en Italie. La pièce a été reprise à Québec en 2014 dans une mise en scène d'Alexandre Fecteau et au Rideau Vert à Montréal en 2018 par Sophie Clément. La tête d'une rebelle. C'était une tête de cochon extraordinaire. On dit séparément Dan Bigras et Madame Bergeron. Ça prenait ça aussi pour vivre comme elle l'a fait de l'écriture et de la poésie. Elle ne se laissait pas oublier, ont-ils enchaîné tour à tour. Dans ses écrits, Denise Boucher utilise des figures religieuses et archétypales, telles Ève, Lilith ou les Vierges Noires. C'est un outil pour déconstruire et comprendre les discours qui concourent à maintenir les femmes dans un rôle prédéterminé, pour parler de leur souffrance. Jézabel en est également. Avant sa mort, Jerry Boulet fait 7 chants pour cette tragédie gospel inspirée du Cantique des Cantiques sur les textes de Madame Boucher. Dan Bigras s'est fait offrir ensuite de finir le travail vers le disque. Qui te soignera? Qui te guérira? Ta cassure est grande comme la mer. Calvaire, c'est beau. Souffle, Monsieur Bigras. C'était un projet à la Cecil B. DeMille. Ben trop gros. Je me suis embarqué parce que j'étais touché. Je savais qu'on pouvait pas faire un hit avec quelque chose d'aussi théâtral. On a vendu 80 000 copies en 1994. Ça a pogné bien plus que je pensais. Le corps et la liberté. Denise Boucher a été présidente de l'Union des écrivaines et écrivains québécois de 1998 à 2000. Elle avait la plus grande énergie que j'ai vue de ma vie, relate l'éditeur Stéphane Despaty, qui siégeait à l'époque au conseil d'administration. Elle devait travailler 80 heures par semaine avec un dévouement incroyable. L'autrice et chroniqueuse Claudia Larochelle s'est approchée de son aînée, d'autrice à autrice, ces dernières années, frappée à la lecture du roman « Au beau milieu, la fin », paru chez Leméac en 2011, premier roman de Madame Boucher. Ses écrits sont confrontants, lucides à fond. Son parcours a été sans concession, sa manière entière, comme son regard sur la politique internationale. Elle est drôle, rigolote, brillante, progressiste, a poursuivi Madame Larochelle, qui n'a pas été l'objet des colères dont était aussi capable Denise Boucher, naviguant parfois dans les extrêmes émotifs. La vieillesse était scandaleuse pour elle, continue l'autrice des Disgracieuses, parue chez Québec Amérique en 2024. Dan Bigras de poursuivre. La dernière phrase de la chanson qu'elle m'a écrite, c'est « Je n'aurais jamais su la longueur de la liberté. La semaine dernière, elle m'a dit « Dans ma vie d'intellectuel, j'ai toujours voulu que ce soit la tête qui mène ma barque. Là, c'est mon corps. C'est ça, la longueur de la liberté. » Toute sa tête et sa poésie étaient encore là. C'était bien dur de la voir avoir de la misère à respirer, termine le chanteur et musicien. C'était Denise Boucher et sa grande soif de mots nous ont quittés. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir.
Quoi faire? Écran. Quatre suggestions de production télévisuelle de Benoît Mignot, paru le 30 mars 2025 dans le magazine Fugue. 1. Reacher, saison 3, la force tranquille de biceps bien saillants. Pour les amateurs de masculinité tranquille, la nouvelle saison de Reacher sonne le moment où il est à nouveau possible de se gorger de la puissance inexpugnable de son personnage titulaire qui, cette fois-ci, doit infiltrer le crime organisé afin de venger un meurtre atroce qui hante sa mémoire. La saison démarre sur des chapeaux de roue, alors que Reacher, Alan Ritchin, un ex-militaire, se retrouve dans la merde après avoir tué un policier qu'il pensait être impliqué dans l'enlèvement d'un jeune homme, Rick Birchold, Johnny Birchold, dont le père n'est pourtant qu'un simple marchand de tapis. Quel est donc l'intérêt de ce rapt? Tout n'est cependant que faux-semblant dans cette nouvelle intrigue, à commencer par la supposée bavure qui ne visait qu'à s'introduire dans la cour rapprochée du père, Zachary Beck, Anthony Michael Hall, dont les affaires florissantes relèvent d'un trafic autrement plus lucratif que la vente de carpettes. En effet, Reacher agit pour le compte de Susan Duffy, Sonia Cassidy, une dure à cuire de la U.S. Drug Enforcement Administration, qui tente de coincer le magnat du crime, mais également de retrouver une jeune femme qui a infiltré l'organisation et ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours. Ce qui semblait au départ se limiter à une simple histoire de cartel du crime se révèle un véritable nid de vipères contrôlé par un certain Xavier Quinn, Brian T., un sociopathe qui se complaît à torturer ses victimes et que Reacher croyait avoir éliminé de la surface de la planète. À cette ribambelle de joyeux lurons s'ajoute Paul Van Hoven, Olivier Richards, qui, du haut de ses 218 cm, 7 pieds 2 pouces, ne rêve que d'écrabouiller la punaise que l'ancien militaire constitue à ses yeux. L'affrontement entre les deux hommes est fascinant à observer, puisqu'il impose un changement de perspective radical par lequel Reacher fait soudainement figure de freluquet. Les épisodes maintiennent un rythme haletant, voire anxiogène, qui nous tient rivés à nos fauteuils. La série regorge également de répliques savoureuses où les doubles sens sont légion. « Si j'ai envie de pisser, tu vas en train me tenir la queue? Tu sais ce qu'on dit des hommes aux grands pieds? Qu'ils ont plus de place dans leurs talons pour cacher un téléphone. » Évidemment, le corps d'Alan Ritchin est toujours admirablement mis en valeur et un épisode nous offre même une très belle scène où il affronte, en slip, une mère déchaînée, nous permettant ainsi de prendre la pleine mesure de son corps massif et bien découpé. Bien qu'il ne soit pas gay, l'ex-militaire affiche des valeurs très inclusives et dans plusieurs épisodes de la saison, on remarque une tension dangereuse dans son regard, chaque fois que le mot « fag » ou « tapette » en version française est proféré par un criminel. Au moment d'écrire ces lignes, seuls 5 épisodes sont disponibles, mais on peut espérer que, dans la suite, Reacher enfoncera éventuellement dans la gorge des gangsters leurs écarts de langage. À noter que la série rencontre un tel succès qu'une saison 4 est déjà en cours de production. Info. Les 8 épisodes de la saison 3 de Reacher sont disponibles sur Prime TV, en anglais, et dans 2 doublages français, dont un excellent réalisé au Québec. 2. The White Lotus, le lotus blanc. Cachez ce cul bombé que je ne saurais voir. Au cœur d'un paysage paradisiaque, une séance de méditation est interrompue par une pétarade de coups de feu. D'où proviennent ces tirs? Qui en est responsable et qui est visé? La découverte d'un corps dérivant à la surface d'un étang n'apporte aucune réponse, mais amorce en force cette saison 3. À l'instar des saisons précédentes, dans The White Lotus, le lotus blanc, la mort est associée à l'eau, que ce soit pour s'y noyer, y reposer ou y être transporté. Comme chaque fois, impossible de connaître l'identité de la victime puisqu'on fait immédiatement marche arrière, une semaine plus tôt, pour assister à l'arrivée d'un convoi de touristes qui découvre le prestigieux complexe hôtelier thaïlandais qui va accueillir leur soif de détente, leur drame, ainsi que leur désir charnel. Jacqueline, Michelle Monaghan, une populaire actrice, paye ce voyage à deux de ses amies d'enfance, Kate, Leslie Bibb, et Laurie, Carrie Coon. Un geste plus ou moins désintéressé, puisqu'elle recherche la présence d'une cour servile et que des piques venimeuses s'échangent rapidement. « Tu es rayonnante, mais tellement fatiguée. » Rick Hatchett, Walton Goggins, un homme d'affaires désagréable, traîne en remorque Chelsea, Emmy Lou Wood, dont la jeunesse insouciante commence à lui tomber sur les nerfs. Et pourquoi cherche-t-il frénétiquement à rencontrer le propriétaire de l'hôtel? Chelsea se lie d'amitié avec une ex-mannequin, Chloé, la Québécoise Charlotte Lebon, dont le petit ami se révèle être le veuf de la victime de la saison 2. À noter que Chloé est au centre d'une scène hilarante lorsque son copain la présente comme une Française et qu'elle s'insurge. « Je ne suis pas française. Je viens du Québec. Ça n'a carrément rien à voir. » En version originale anglaise, l'actrice s'exprime avec un accent québécois qui ne fait qu'accentuer l'absurdité de la scène. La réplique perd cependant tout son sel dans le doublage réalisé en France, où la comédienne Rhode Léo Vanny fait montre d'un accent aussi québécois qu'un croissant au beurre. On valse ici entre le ridicule et un manque complet de neurones de la part de l'entreprise de doublage. Finalement, Timothy Ratliff, Jason Isaacs, traîne dans son sillage son épouse, Parker Posey, et ses trois enfants, Saxon, Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold, Piper, Sarah Catherine Hook, et Lachlan, Sam Nivola. Une famille en apparence idyllique qui apparaît cependant sur le point d'imploser. Le père cache qu'il est empêtré dans un scandale financier. Sa femme semble à deux doigts d'un coma éthylique et sa fille cache un agenda mystérieux. Le plus étrange se situe cependant du côté des deux frères qui partagent une même chambre et dont les coups d'œil équivoques du plus jeune laissent poindre un parfum d'inceste. L'aîné n'est cependant pas en reste, puisqu'il laisse la porte de la salle de bain ouverte, exposant ici son corps nu, de même que ses séances de masturbation au regard de son frère. Bref, chaque personnage est susceptible de partir en vrille. Reste à savoir qui va disjoncter le premier, allant jusqu'à commettre l'irréparable, et quel changement sera apporté au statu quo précaire dans lequel il surnage pour le moment. Comme à son habitude, cette nouvelle saison se distingue par une photographie splendide, une intrigue finement ciselée et des acteurs au sommet de leur art. Difficile de ne pas sombrer dans cette débauche de richesse, de fausse sérénité, de fiel déguisé en affabilité et de concupiscence des corps et des interdits. Info. Les 8 épisodes de The White Lotus, le lotus blanc, sont offerts en anglais et en français sur Crave et Super Écran. Vous écoutez Quoi faire, écran, 4 suggestions de production télévisuelle de Benoît Mignot, paru le 30 mars 2025 dans le magazine Fugue. 3. Yellow Jackets, saison 3. Un nouveau souffle de résilience et de trahison. Après une saison 2 qui sombrait dans un délire mystique parfois agaçant, Yellow Jackets retrouve son souffle en s'abreuvant aux sources véritables de la série, la survivance des rescapés d'un accident d'avion et, 25 ans plus tard, le mystère entourant l'élimination systématique de ces dernières. L'intrigue alterne efficacement entre leurs 19 mois de survie dans le Grand Nord canadien et la période actuelle, en 2021, où de nombreux secrets entourant la nature de leur survivance se révèlent progressivement, dont le recours à une alimentation enrichie de protéines humaines à base de cannibalisme. En 1996, des tensions à couper au couteau embrasent la communauté de survivantes et génèrent une chasse aux sorcières à l'endroit de l'entraîneur Ben Scott, Steven Kruger, suspecté d'avoir incendié leur refuge. Dans le présent, les révélations se multiplient au rythme des meurtres dont la raison d'être demeure un complet mystère. On ignore par ailleurs toujours si l'ensemble des rescapés ont bien été secourus. C'est notamment le cas de l'entraîneur Scott, dont le destin demeure suspendu à un fil. Un des enjeux majeurs de la série réside dans le fait que peu de personnages inspirent véritablement de la sympathie, que ce soit dans le passé ou dans le présent, puisqu'à l'instar du roman de William Golding, Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies, les survivantes sombrent rapidement dans une structure sociale sauvage et violente, bâtie autour de croyances mystico-religieuses toxiques. Cela dit, on peut heureusement compter sur deux protagonistes aux personnalités totalement opposées. Dans le coin gauche, on retrouve Misty, Christina Ricci et Samantha Hanratty, la marginale de l'école dont les décisions imprévisibles sont compensées par sa fragilité et son ingéniosité. Alors que dans le coin droit se trouve l'entraîneur Scott, qui demeure relativement équilibré et tente de se détacher d'un groupe qui s'abîme rapidement dans le fanatisme. Il tient par ailleurs un discours fort émouvant lorsqu'il évoque sa propre marginalité en tant qu'homme gay conspué par sa famille. Le couple formé par Tessa, Tawny Cypress et Jasmine Savoy Brown, Evan, Lauren Ambrose et Liv Hewson, suscite également l'intérêt, même si leurs actions sont souvent aux frontières de la criminalité. Même son cloche du côté de Shauna, Melanie Linsky et la Canadienne Sophie Nellis, qui a un pied dans la paranoïa et le second dans le rationnel. Est-ce que cette nouvelle saison apportera des réponses aux mystères entourant l'élimination progressive des survivantes? Ben Scott a-t-il survécu? On ne peut que l'espérer. Et retrouvera-t-il Paul, François Arnault, son copain qu'il a délaissé avant l'accident d'avion? À moins qu'il fasse office de bœuf braisé? Misty trouvera-t-elle l'équilibre et la reconnaissance qu'elle recherche? Bien des questions et, pour le moment, assez peu de réponses. Demeure, cependant, le plaisir de contempler l'intrigant mystère se dérouler devant nos yeux. Info. La série Yellow Jackets est offerte en anglais et en français sur Crave et Super Écran. 4. Severance, saison 2. Dissociation. Être à la fois le héros et le traître. Sans aucun doute, l'une des séries les plus originales et les plus alambiquées de la télévision. La nouvelle saison poursuit allègrement son exploration surprenante du concept d'individualité sur fond de capitalisme exacerbé et de résistance souterraine. Dans sa première saison, Severance, Dissociation, révélait les rouages mis en place par la compagnie Lumon, où, grâce à une intervention neurologique, l'existence des employés était scindée en deux identités complètement distinctes. La vie professionnelle, une identité nommée « inter », et personnelle, nommée « exter ». Lorsque les employés quittaient le périmètre de l'entreprise, ils ne gardaient ainsi aucun souvenir de ce qu'ils y avaient fait, et inversement. Les inter avaient donc le sentiment d'y travailler 24 heures sur 24. La disparition d'un superviseur a amené l'un de ses collègues, Mark Scout, Adam Scott, à mettre à jour de nombreuses zones d'ombre, en commençant par la nature même du travail absurde, trier des chiffres sur un écran, auquel les employés consacraient chaque minute de leur existence. La saison 1 s'est conclue alors que Mark découvrait que son ex-ter était marié et qu'il croyait être veuf, alors même qu'à titre d'inter, il croisait tous les jours sa femme au travail. Dans la saison 2, la dynamique du mur de Chine entre les personnalités continue de se complexifier et de s'effriter. Irving, Christopher Walken, et Bert, John Turturro, avaient amorcé une relation amoureuse, mais le départ à la retraite du premier est vécu comme un décès tragique, puisque concrètement, il n'existe plus à titre d'inter. À la suite d'un concours de circonstances, les externes des deux hommes se retrouvent, mais Irving a déjà un conjoint qui semble toutefois ouvert à une relation à trois, ou à cinq, si on compte deux inters et deux externes. Dans le même ordre d'idées, l'inter de Dylan, Zach Cherry, amorce une liaison avec l'épouse de son externe lorsqu'elle visite l'entreprise. Il devient ainsi à la fois l'amant et le cocu de cette relation. Finalement, dans un registre encore plus tordu, l'inter d'Elena, Britt Lower, résiste farouchement aux dictats de la compagnie, tout en se révélant en être l'une des têtes dirigeantes. Elle incarne donc à la fois l'ennemi et la résistance qui cherche à l'éliminer. Mark ignore par ailleurs qu'un traître se cache au sein de sa propre équipe d'inter puisque la compagnie est prête à tout pour assurer le succès d'une mystérieuse opération, Cold Harbor, dont il semble constituer un élément clé. À quel titre? Difficile à dire. Mais n'y aurait-il pas un lien avec un élevage de chèvres caché dans l'un des bureaux? Chaque épisode est empreint de révélations surprenantes et de questionnements existentiels, parfois aux frontières de l'absurde. Certaines scènes, notamment une intervention dans une boîte crânienne lors d'une tentative visant à restaurer deux personnalités, donnent le frisson, alors que d'autres sont d'un grand lyrisme. C'est plus particulièrement le cas d'un montage de souvenirs agencé sur la valse Hamilton de Jacques Brel. La série représente ce qui se fait de mieux à la télévision, un constat qui se reflète dans une cote Rotten Tomatoes de 97% pour les critiques et de 79% chez les spectateurs. Le succès est tel qu'une saison 3 est d'ores et déjà confirmée et en cours de production. Info. Les deux saisons de Severance, Dissociation, sont disponibles sur Apple TV, en anglais, et dans deux excellents doublages français, dont un réalisé au Québec. C'était Quoi faire, écran, quatre suggestions de production télévisuelle de Benoît Mignot, paru le 30 mars 2025 dans le magazine Fugue.